Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être invité à parler au Collège de France. Et le titre, le choix du titre, a même une réflexion de l'influence de certains maîtres à penser, professeurs au Collège de France, pas de mathématiciens, que j'ai lus quand j'étais trop jeune pour ne pas être affecté de façon durable. Je ne vais pas prendre position exactement, même si j'ai des positions sur certaines questions sur la mécanisation, mais je vais essayer de comprendre le discours autour de la mécanisation, les implications que certaines cherchent à déduire, des tendances dans le développement technologique et autre chose. Et ça, quand on commence à tirer sur les ficelles de la mécanisation de mathématiques, on arrive on peut arriver presque n'importe où dans la philosophie, dans la technologie, dans l'économie, dans la politique, psychologie. Donc, j'essaie d'organiser autour de trois titres, dans ce qu'on pourrait dire, ce qu'on a dit et ce qu'on devrait pouvoir dire. Parce que ce qu'on a dit a tendance à bloquer la possibilité de penser autrement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mécanisation des mathématiques? Mais c'est la création de dispositifs artificiels, dont l'intelligence artificielle, mais pas seulement, avec l'objectif d'accompagner les mathématiciens humains ou encore de les remplacer. Donc ça, c'est la façon d'en parler. Donc, il y a des questions qu'on peut poser. Les questions techniques, c'est normalement comme ça qu'on aborde la question. Est-ce que c'est faisable? Quand est-ce que ça sera fait? Est-ce que c'est vraiment de la mathématique, ce qui est fait par des machines? Il y a des questions philosophiques qui vont toujours autour quand on parle de philosophie de mathématiques. Donc, quel est le statut des axiomes? Est-ce que les axiomes déterminent la mécanisation ou pas? Est-ce que c'est fait par ordinateur? Est-ce que ça détermine la question s'il s'agit d'invention ou découverte? De quoi sont capables les ordinateurs? Et puis, la question discursive. Comment se construit le discours autour de ces dispositifs? Et surtout la version qui prétend que ces processus sont inévitables. Parce que c'est ce qu'on entend, surtout dans la presse, dans les médias, quand il s'agit de parler de mécanisation de mathématiques. Et je vais parler surtout du troisième point. Je ne vais pas vraiment. Je ne suis pas vraiment concerné par la faisabilité. Je ne suis pas expert et d'ailleurs, ce n'est pas la question qui m'intéresse. Comment arrive-t-on au point où les collègues sont capables d'affirmer que l'élimination des mathématiciens humains à faveur des machines est possible, inévitable ou même souhaitable? Donc, parce que c'est comme ça qu'on parle. Donc voici quelques citations du discours de l'Apocalypse. Segedi, qui est ingénieur à Google, qui est très actif sur cette question, il a une équipe qui travaille sur cette question. Et malheureusement, je n'ai pas essayé de traduire toutes les citations en français. Donc, je vais les lire en anglais. Alors. A successful implementation of mathematical reasoning, theorem proving, and auto-formalization, peut-être je vais dire un mot là-dessus, has many implications that go far beyond just transforming mathematics itself. Donc voici, il affirme son ambition de transformer les mathématiques. Et d'ailleurs, si on est ingénieur à Google, on ne devrait pas avoir des ambitions inférieures. Il faut viser haut. Kevin Buzzard, qui va parler la semaine prochaine, il avait rencontré Segedi. Il m'a écrit dans un message que Segedi claims that computers will be better at proving theorems than humans within 10 years. Ce n'est pas ce qu'il a écrit, Segedi, mais c'est ce qu'il a dit en privé à Buzzard. He actively wants to put us out of business. Bon, voilà. Et puis, un livre de Marcus de Sautoy, qui est un, on peut dire, un vulgarisateur officiel de Oxford, de sciences, dans son dernier livre, hein, où il parle de son angoisse existentielle. Il dit qu'il a écrit ce livre parce que « I have found myself wondering with the onslaught of new developments in artificial intelligence if the job of mathematician will still be available to humans in decades to come. Mathematics is a subject of numbers and logic. Isn't that what a computer does best? » Bon, à la fin, il dit peut-être pas, mais je vais pas, vous pouvez lire le livre. Hein. La présence de mots comme business et job chez Buzzard et Sautoy est déjà très indicatif de la direction de ces discours, hein. Tout comme le fait que Segedi est ingénieur chez Google, qui n'est pas en fait anodin. Si on voit les mathématiciens comme des producteurs de marchandises, alors leur remplacement par des robots est tout à fait envisageable. Donc c'est pourquoi pas. D'ailleurs, c'était une des motivations initiales, je peux dire, et légitimes de la mécanisation des mathématiques, de la démonstration automatique, particulièrement pour l'auto-formalisation dont parle Segedi, pour vérifier de façon automatique que les logiciels marchent comme prévu, parce que c'est les conséquences d'une erreur peuvent être vraiment catastrophiques. Donc c'est, même dans les années 50, et surtout à la fin des années 60, les informaticiens ont commencé à dire il faut prouver que le logiciel marche, et c'est devient trop compliqué pour les êtres humains de faire. Bon. Et puis, comme c'est un séminaire sur la pratique des mathématiques, on peut admettre que les conditions matérielles de la recherche mathématique, et ça veut dire le financement en particulier, le fait que les postes de chercheurs continuent à exister, font aussi partie de la pratique des mathématiques, et même une partie essentielle, et donc méritent d'être discutées dans un séminaire sur sa philosophie. Ben, je ne vais pas le faire ici, parce que ça va être trop loin de parler des conditions matérielles et économiques de pratique des mathématiques, mais je travaille plutôt sur le discours en posant des questions qui me semblent fondamentales sur la mathématique. Je parle un peu vite. Voilà la question qui me motive. Ça, c'est comme je préfère de voir la question. La mathématique est-elle un moyen au service d'une fin qui pourrait être atteinte aussi bien ou encore mieux par une machine compétente que par un être humain? Ça semble être le point de départ de quelqu'un comme Segedi, par exemple. Je ne veux pas le diaboliser, je ne le connais pas. Si oui, quelle est cette fin? Et pourquoi les machines sont-elles perçues comme plus fiables que les êtres humains? Donc, si on part de cette perspective, il vaut mieux déjà l'énoncer et puis essayer de le justifier. Mais sinon, cette mathématique est-elle plutôt une fin en soi, une pratique humaine poursuivie pour sa valeur inhérente? C'est ce que disent les mathématiciens en général. Je vais faire quelques citations de différentes perspectives à la fin. Mais si on le croit, quelle est cette valeur? Et peut-elle jamais être partagée avec les machines? Donc, j'aimerais déjà, quand on parle de mécanisation de mathématiques, d'avoir en tête ces deux questions, ces deux alternatives. Donc, le discours habituel est basé le plus souvent sur le déterminisme technologique ou quelque chose comme la loi de Moore qui dit que si les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, alors à date X, en 2040 ou 2050, forcément les ordinateurs seront plus puissants que le cerveau humain, et donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour les mathématiques. Ça, c'est comme ça que ça va. Évidemment, je suis d'accord avec la deuxième perspective, mais je ne prétends nullement d'avoir une réponse définitive. En tout cas, je trouve que cette à ce raisonnement selon le déterminisme technologique est très superficiel et n'atteint en rien ce qui est la valeur des mathématiques. Donc, quelques définitions. Donc, par exemple, c'est la formalisation, comme Kevin Buzzard va expliquer la semaine prochaine, et la réécriture des textes mathématiques humains en un langage compréhensible par la machine. Et comme les machines sont très tatillonnes, ça veut dire qu'il faut être précis le moindre virgule. Déjà, c'est un exercice qu'on peut imaginer avoir un exercice d'hygiène intellectuelle qui pourrait avoir une valeur en soi. Et puis, l'auto-formalisation est une version de la formalisation où la traduction est réalisée d'un texte mathématique humain en langage formel est réalisée par une machine. Et l'équipe de Segedi travaille justement là-dessus. J'ai lu un rapport, je ne savais pas que depuis, je sais pas, 15 ans, 25 ans, il y a une conférence annuelle sur la mathématique intelligente des machines. Et c'est lui qui a été invité, il a fait apparemment le seul discours invité, exposé invité, qui était publié dans le numéro de 2020. La vérification automatique détermine si un texte mathématique formel est compatible avec toutes les règles. Donc, une fois que la démonstration, si c'est une démonstration, est formalisée, on peut le tester par passant par un système de vérification automatique. C'est même le but de ceux qui travaillent sur la formalisation, de pouvoir vérifier que les démonstrations sont correctes. Il y a une certaine littérature de vérification automatique des textes formalisés, de démonstrations, de théorèmes connus. Peut-être le plus important, le plus historiquement, c'était la démonstration du conjecture de Kepler par Hales, qui était, il a créé tout un projet autour de la formalisation, la vérification. Mais il y a beaucoup de théorèmes connus qui ont été vérifiés par cette façon. La démonstration automatique et la création par les machines de nouvelles preuves mathématiques et donc éventuellement de nouveaux résultats. Et c'est l'essence de la pensée mathématique, et là je cite, ça vient d'une citation qui va apparaître dans la prochaine diapositive. Si l'essence de la pensée mathématique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si ça consistait en la production des résultats pour le marché, donc au moins ça serait concret, c'est à ce niveau qu'on pourrait parler de remplacement des mathématiciens humains par les machines. Alors, quel est l'intérêt de formalisation et vérification automatique? Bon, d'abord, les êtres humains sont trop sensibles, et donc on ne peut pas leur faire confiance. Ils ont des motivations qui sont éventuellement différentes des motivations épistémologiques, mathématiques. Les êtres humains sont mortels et leurs cerveaux ne sont pas lisibles. Et donc, on ne peut rien faire avec les aspects implicites de leur démonstration informelle. Et il y a un article dans la revue en ligne Quanta dernièrement sur la preuve de Michael Friedman de la conjecture de Poincaré en dimension 4. Je ne savais pas toute cette histoire, mais il avait démontré ça en début des années 80. Mais il avait expliqué à des experts. Les experts ont dit, oui, c'est bon. Il a publié essentiellement un résumé de la démonstration. Et puis les experts, ça a 40 ans sont passés. Il y a peut-être plus autant d'experts qui sont capables de se souvenir de ce qu'il avait raconté. Donc, il y a un groupe, un projet pour traduire sa démonstration, son esquisse de démonstration, en une démonstration complète, mais informelle, pas une démonstration formalisée. Donc, il y a un livre qui est en train de rédaction. C'était un bon exemple, mais on peut trouver d'autres exemples, ce genre-là. Les êtres humains se trompent souvent. Bon, ça, c'est une vieille histoire en philosophie. C'est aussi en mathématiques qu'ailleurs. Les êtres humains ont des motivations politiques incompatibles avec l'objectivité. Bon, il y a quelques exemples notoires en ce moment de mathématiciens qui persistent, qui à publier et prétendre qu'ils ont démontré des choses que d'autres mathématiciens n'ont pas convaincu d'autres mathématiciens. Les êtres humains s'ennuient facilement. Ça, c'est plutôt pour les rapporteurs, les gens qui sont censés vérifier que les démonstrations sont correctes, mais on peut lire, et quand les démonstrations sont de plusieurs centaines de pages, on peut dire, bon, après quelques centaines de pages, on ne veut pas s'embêter avec vérifier toutes les lignes. Et puis, peut-être ce qui est présent dans tous les autres, les êtres humains ne sont pas assez précis et donc on ne peut pas être sûr d'interpréter leurs propos correctement. Donc, si une démonstration est écrite en un langage formel, en tout cas, c'est dans le langage formel, on ne peut pas se tromper sur la signification parce qu'il n'y a pas de signification, il y a juste les suites de symboles. Les informaticiens, des informaticiens, philosophes, ne sont pas contents de l'état des mathématiques. Donc, j'ai trouvé ces citations, la plupart de ces citations, dans le livre de Donald McKenzie, qui est publié il y a 20 ans sur la mécanisation des mathématiques, de preuves formelles, et c'était autour de la démonstration, essentiellement la démonstration du théorème de quatre couleurs, c'est à l'époque. Donc, in the whole literature of mathematics, there is not a single valid proof in the logical sense. Bon, peut-être, mais tant pis. Il y a un autre informaticien. C'était un philosophe. Mathematicians' failure to perform proofs formally by manipulating uninterpreted formulae according to explicitly stated rules. Donc, autrement dit, la formalisation proves that mathematics is still a discipline with a sizable pre-scientific component in which the spirit of the Middle Ages is allowed to linger on. Bon, je ne vois pas de problème, mais pour un informaticien, c'est pas... Surveyability, ça c'est une référence à une valeur qui était importante pour Wittgenstein en particulier, is not part of what it is to be a proof. Donc, contrairement à ce que affirme Wittgenstein, it's not part... what it is to be a proof. Perhaps mathematics is not an essentially human activity. Bon, là, c'est... Et beaucoup plus récemment, ça, c'est un projet, si je ne me trompe pas, ERC, qui a été financé. Too many proofs look more like LSD trips than coherent mathematical arguments. Donc, ça, c'est encore un informaticien qui voudrait... remédier à cette situation. Il avait reçu une bourse de 5 ans avec un projet de beaucoup de post-doc. Hein. Voilà. Donc, c'est le chercheur s'appelle Yasmin Blanchett. Alors là, je cite Tim Gowers. Dernièrement sur un tweet, if you have formalized your proof in a language such as Coke or Lean, then you've definitely got a proof. Alors, je ne suis pas convaincu. Definitely, ça c'est une affirmation d'une certaine perspective. Encore, ce n'est pas forcément le. Donc, on peut se mettre d'accord là-dessus, mais on peut aussi dire, c'est le proof, c'est quoi? Est-ce que c'est formel ou c'est autre chose? Il y a aussi une version plus militante. Je trouve le nom dogme. Central dogma, comme dans la biologie moléculaire, c'est une une version synthétique, une interprétation de la pratique de discipline. C'est en biologie moléculaire, c'est que c'est l'ADN qui se traduit en ARN et puis et ensuite dans les protéines, et c'est ça la théorie de l'évolution derrière. Donc je pense que c'est le dogme central, et une très bonne belle exposition de ça de Jeremy Avigad, avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est une belle exposition. An informal mathematical statement is a theorem if and only if its formal counterpart has a formal derivation. Bon, encore, c'est une tentative d'imposer une perspective sur la pratique de mathématiques qui n'est pas la même que la perspective reconnue par le mathématicien. A judgment as to correctness, et ça c'est is, c'est le mot is, ça veut dire, c'est une définition, is tantamount to a judgment as to the existence of a formal derivation. And whatever psychological processes the mathematician brings to bear, they are reliable insofar as they track the correspondence. Bon, c'est net. Hein? Et donc, est-ce que les mathématiciens sont d'accord? Parce qu'il est aussi mathématicien. Bon, il y a des mathématiciens qui disent, comme Michael Attia, que la preuve n'est pas du tout la chose principale. Donc, là, c'est une citation que j'aime répéter parce que ça dit le contraire aussi avec beaucoup de force, hein, et que c'est la compréhension qui compte. Le problème, et Avigad est à la fois informaticien, philosophe et mathématicien, le problème, si on est philosophe, on ne sait pas ce que c'est la compréhension. C'est une notion difficile pour les philosophes, il y a des tentatives de le formuliser, mais ils n'aboutissent pas. C'est pour ça que je préfère parler de pratique. Donc voici un texte récent de Juliet Kennedy. Mathematics is practiced in a formalism-free manner. Donc ça, c'est à la différence de la version prescriptive de Avigad, c'est une version descriptive qui correspond à la pratique. This has always been the case and will remain the case, meaning in part carried out in natural language with no mention of syntax and semantics. Et Kennedy est un logicien, donc il ne peut pas être soupçonné d'hostilité envers la logique, comme la différence de beaucoup de mathématiciens. The discipline known as foundations of mathematics is practiced differently. Donc voilà, il part de ce que fait Avigad. And the foundationalist seeking a grounding for mathematical discourse finds it not in natural language, but in formalizations of various kinds. Donc ça, c'est un constat. C'est pas une tentative d'imposer une perspective, c'est un constat. Voici une autre version que j'ai. Donc René Thome, Medaille Fields, on disait qu'il avait fait sa thèse sous la direction de Henri Cartan et qu'il se serait avéré incapable de rédiger les démonstrations à la satisfaction de celui-ci, de son directeur de thèse. Un autre éminent mathématicien, je pense savoir qui c'est, mais c'est encore un autre mathématicien éminent, aurait alors dissipé les scrupules de Cartan par cette phrase admirable. Peu importe, il y a bien 10 personnes au monde capables de démontrer ces théorèmes, mais il y en a une qui soit capable de les trouver. Et donc, le commentaire de Eklund dit que Thome cherchait à faire comprendre pourquoi les théorèmes étaient vrais. Les démonstrations, on allait les chercher ailleurs, mais c'est chez Thome que l'on cherchait le pourquoi des choses. Voilà comment les mathématiciens réfléchissent. Le pourquoi des choses, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça si on est... Et Frédéric Patras, qui était représenté indirectement il y a deux semaines, l'écriture grothendieckienne est portée par une conception atypique des mathématiques, décrite et théorisée dans les textes, qui témoigne avec vigueur de la part incontournable de poétique qui anime le travail scientifique et de ce surplus de sens que l'écriture formalisée croit bon d'évacuer, alors même que là gît l'essence de la pensée mathématique. Alors là, je dois avouer que même si j'avais lu les philosophes français à un jeune âge, professeur de Collège de France, j'ai aussi lu beaucoup de philosophie anglophone, et pour moi, c'est très difficile d'utiliser des expressions comme le poétique sans plus de sens, et l'essence de la pensée mathématique que j'avais citée tout à l'heure, sans le mettre entre guillemets, en tout cas. Je ne sais pas, parce que c'est trop loin de ma formation intellectuelle. Mais quand même, j'apprécie quand je le vois écrit. Donc, que veut dire Eklund par le pourquoi des choses, ou par surplus de sens ou l'essence de la pensée mathématique? Et encore, la philosophie des mathématiques ne sait pas répondre à ces questions. Là, je devrais le qualifier. Peut-être la philosophie en langue française sait répondre à ces questions, mais après, je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il dit. Peut-être ces expressions ne veulent rien dire, et certainement, la philosophie analytique ne veut rien attribuer, pas d'attribuer signification à ces expressions. Mais pourquoi les mathématiciens persistent-ils à les utiliser? Pas forcément dans les textes écrits, mais en tout cas, quand on parle entre nous. Alors, j'ai essayé quand même de cerner le pourquoi des choses sur plus de sens dans mon livre « Le mathématique, une vocation problématique ». Différentes façons. Donc, j'ai suggéré que l'objectif des mathématiques, c'est tout aussi vague que l'autre, mais c'est vague dans un autre sens. L'objectif des mathématiques était de convertir les preuves rigoureuses en heuristiques. Donc, c'est le contraire de ce qu'affirment les philosophes. En d'autres termes, non pas de résoudre un problème, mais plutôt de le reformuler d'une manière qui en rend la solution évidente. Et encore, je veux dire évident dans le sens wittgensteinien, synoptique ou transparente. Bon, encore, si c'était vrai, ça serait un constat, parce que je ne peux pas... des motivations des mathématiciens, de la façon d'écrire ce qu'ils font, ce que nous faisons. Dans les situations auxquelles je pense, on peut très bien avoir une preuve rigoureuse, mais le caractère d'évidence est fondé sur une compréhension qui s'accorde uniquement avec un motif que l'on ne peut pas encore expliquer. Donc ça veut dire, la preuve est au moins dans le sens informel et rigoureuse, mais on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas les idées auxquelles la preuve fait référence, parce que les idées n'existent pas encore, n'ont pas encore été formulées. Et ça peut paraître paradoxal, mais c'est absolument naturel de dire, ça marche, mais c'est parce qu'il y a un phénomène ou une idée qu'on n'a pas encore trouvée. Les concepts disponibles sont interprétés comme les avatars des concepts inaccessibles que nous sommes en train d'essayer de saisir. Donc le mot avatar a été, c'est Grothendieck qui l'a introduit dans le discours sur l'essence de la pensée mathématique. Et Patra était en train de parler de Grothendieck. Donc les avatars sont les objets qu'on ne voit que très très indistinctement. Donc ce sont les objets du futur. Donc, et ce sont les heuristiques qui seront transformées plus tard en preuves rigoureuses et ainsi de suite. Voici un exemple très connu. Weil a proposé ses conjectures sur le nombre de solutions d'équations sur un corps fini en imaginant une théorie cohomologique qui ne pouvait pas exister avec les intuitions de l'époque. Donc, c'était très audacieux. Il a dit ses conjectures. La preuve naturelle de ces conjectures passerait par la construction d'une théorie cohomologique qui ne peut pas exister. Ça n'a pas de sens avec les notions de géométrie dont on dispose, sauf qu'il avait un exemple en dimension 1 qui marchait. Moins de 15 ans plus tard, l'école de Grothendieck a inventé la cohomologie étale en réinterprétant, faisant une refonte totale des intuitions géométriques. Et toutes les conjectures de Weil ont été démontrées avec cette théorie. Et ça continue. Donc, Grothendieck avait vu plus loin et il avait entrevu des développements ultérieurs parce qu'il voyait que ce n'était pas encore perfectionné. Et dans les travaux récents de Laurie, des milliers de pages de Laurie que j'aimerais bien pouvoir formaliser. Et Schultz et autres qui redéveloppent et continuent à formuler les intuitions géométriques. Et c'est important de mentionner que quand ils le font, ils élargissent les bases, les fondations des mathématiques. Le cadre, le théorème des ensembles n'est pas suffisant pour contenir toutes les constructions. Donc les axiomes de Zermelo-Fraenkel sont insuffisants. Donc, pour des philosophes, c'est très troublant, parce que si les philosophes cherchent la vérité et si les mathématiciens commencent à... Toutes les générations inventent, tous les siècles inventent de nouveaux systèmes axiomatiques, où est la vérité? Ça, c'est un problème pour les philosophes. Donc, perspective historique... Stephanie Dick, qui est historienne de mathématiques et en particulier de la mécanisation de mathématiques, a écrit une thèse qui n'est pas encore sortie en livre, malheureusement. In developing theorem proving software, practitioners endowed mathematical objects with computational properties. They were translated into dynamic, algorithmic, discrete things. Donc là, elle travaille dans la tradition de la sociologie, des connaissances scientifiques, et donc la pratique où on peut. Donc, il y a la version de Bruno Latour, mais elle, aussi, elle est plutôt dans la tradition anglophone, et donc ces langages sont empruntés. Donc, les objets ont été transformés, c'est-à-dire. Parlant de mécanisation de mathématiques, les objets mathématiques ont été transformés. Et voici un autre, donc là, c'est Shoshana Zuboff qui a écrit un livre très long sur ce qu'elle appelle surveillance capitalism, nouveau modèle économique. With this reorientation from knowledge to power, it is no longer enough to automate information flows about us, the goal now is to automate us. Donc, c'est-à-dire les mathématiciens qui travailleraient avec les objets mathématiques transformés en objets algorithmiques deviennent aussi des sujets ou des objets d'algorithmes. Donc, ça, c'est juste une observation. Bon, là, il y a juste une petite question sur les conséquences de choisir un système formel. Donc, Kevin Buzzard et la plupart de formalisateurs travaillent dans un système Lean qui a été créé par Microsoft. Mais si Google invente un autre système, par exemple que Spline, par exemple, est-ce que ça donnerait le même résultat? Est-ce que les deux systèmes auraient le même théorème? Et en fait, j'ai consulté Kevin la semaine dernière, il a dit Lean's axiomatic system is dependent type theory with infinitely many universes in classical logic. Donc ça, c'est assez large comme système. And it has been proved to be equiconsistent with Zermelo-Fraenkel choice plus infinitely many inaccessible cardinals. Tant mieux. Donc ça, c'est au moins, c'est reconnaissable. Par contre, Koch is much more primitive. Ben, ça, c'est son point de vue. It can't even prove the law of the excluded middle or the axiom of choice, and maybe not even functional extensionality. Voici les bases de la mathématiques dans les systèmes de Zermelo-Frenkel, because it's used by people who actively don't want to assume these things. Donc il y a une part idéologique, hein, même parmi les informaticiens et les mathématiciens qui. Donc il y a certains collègues qui insistent sur l'aspect constructif de Koch, qui de fait que ce n'est pas donc il n'y a pas justement la loi du tiers exclu. Mais quand même, tout n'est pas perdu. But you can just add all these things as axioms. And if you do that, then it is probably provable that it can prove the same theorems as Lean. Probably provable. Mais il y a toujours la possibilité que Google pourra donner toujours le même exemple parce qu'ils travaillent activement là-dessus, essaient d'imposer leur propre système qui selon leurs propres besoins commerciaux ou autres. Le formalisme que Vyavotsky a essayé d'imposer n'était pas basé sur les ensembles, c'était basé sur les types, et c'était un autre système, et je ne sais pas ce qui a été démontré par rapport à ces les conversions de résultats dans un système à l'autre. Bon, ça, c'est juste... l'argument ici, c'est que si les mathématiciens veulent travailler avec certains points de vue, ils ne sont pas sûrs de le trouver dans le système formel. C'est pas garanti que donc, s'il y a une interaction entre les mathématiciens qui formalisent et les autres, mais alors, ce n'est plus une question philosophique, c'est une question de pratique. Alors, à quoi ressemblerait la démonstration automatique? Alors, il y a une tradition dans parmi les informaticiens d'annoncer que dans 10 ans, tout sera automatisé. Donc, ça commence avec Herbert Simon en 1957 dans le cadre de la première rencontre sur l'intelligence artificielle. I'm willing to make the following predictions to be realized within the next 10 years. Donc, et le deuxième, that within 10 years, a digital computer will discover and prove an important new mathematical theorem. Donc, les autres trois étaient composés une œuvre musicale de valeur, être champion mondial d'échecs, hein, et puis remplacer tous les textes de psychologie. Donc ça, c'était... Bon, il y a 64 ans. Tous les 10 ans, ça recommence. Donc, il y a en 2020, Segedi, auto-formalization could enable the development of a human level mathematical reasoning engine in the next decade. Bon. Donc, comment déterminer le niveau humain? Donc, la notion de human level, il me semble, remonte à la même époque. C'est John McCarthy c'est lui qui a inventé le mot à intelligence artificielle, qui a commencé à parler de human level. Tous les ordinateurs ne sont pas égaux, tous les êtres humains ne sont pas... le niveau humain, c'est un moyen, c'est une aspiration. Bon, en tout cas, voici une réponse claire. En 1980, l'informaticien Edward Fredkin a proposé un prix. Il était très riche. Il a acheté une île, puis il a vendu à Sir Richard Branson 30 ans plus tard. The quality of the results should make the paper a natural candidate for publication in one of the better mathematical journals, and also for one of the established prizes, American Mathematical Society prizes, the Cole Prize in Algebra, the Veblen Prize in Geometrie, or even a Fields Medal. Donc, il vise très haut. Mais donc, la AMS devait décerner le prix, mais c'était laissé tomber depuis. Je ne sais pas pourquoi. Donc, cela pose des questions éthiques d'un tout autre ordre, parce que la spécificité de chaque humain, même de chaque mathématicien, est d'être unique. Bon, il y a toute une tradition philosophique éthique autour de l'unicité et de la valeur de l'individu, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais par contre, l'engin de raisonnement mathématique de niveau humain devrait être infiniment reproductible. Donc ça, c'est la valeur, c'est d'être distincte de toutes les spécifications qui font de l'unicité d'un être humain. En même temps, c'est un genealogical isolate. Donc ça c'est un terme introduit dans un livre, Slavery and Social Death, sur l'esclavage, de l'époque moderne, qui transformait l'être humain en marchandise, mais marchandise infiniment échangeable. Donc je veux juste signaler que c'est une direction de bonne réflexion. Un défi de Jean-Michel Cantor, hein, encore sur le niveau humain. Si la crainte de Sotoy et l'espoir de Simon et de DeepMind de Google est justifiée, si dans quelques décennies les êtres humains seront exclus du métier de mathématicien, il faut supposer que les machines du futur seront capables non seulement de faire l'équivalent de démontrer la conjecture de Poincaré, mais aussi de la formuler. Ceci sans interventions humaines. Ce n'est pas Cantor. Je pense que je ne l'ai pas écrit. C'est ma réécriture de cette question. Alors, comment peut-on imaginer la machine qui formule la conjecture de Poincaré? Alors, bon, les méthodes actuelles d'apprentissage automatique reposent toutes sur la création de modèles statistiques à partir de bases de données massives. Big data. J'ai cherché la traduction française de big data, c'est big data. AlphaGo Zero a généré sa propre base de données en jouant 4,9 millions de parties de Go en 3 jours. Et la version plus avancée ne connaissait même pas les règles au départ. Donc c'est le modèle d'apprentissage automatique. Et comment, à partir de ce modèle, arriver à formuler la conjecture de Poincaré. Donc la question que Cantor a posée. Donc, comment, à partir des axiomes ou éventuellement uniquement en lisant des textes mathématiques ou peut-être même en lisant des images visuelles, parce que dans l'article de Segedi, il propose l'entraînement des systèmes automatiques, non pas sur des textes, des démonstrations dans les textes, mais sur les images. Donc, l'ordinateur va lire l'image transformée en pixels et donc créer une base de données énorme, immense, et donc commencer à générer des preuves qui ressemblent à ces pixels, c'est comme ils ont tout le temps du monde, ils pourraient éventuellement créer des preuves. Alors, la version mathématique d'AlphaGo Zero arriverait à une démonstration de la conjecture de Poincaré sans le moindre supervision humaine, juste à partir de cette base de données. Ce serait déjà intéressant si le système pouvait partir de la classification de surface orientable. Donc, pour pour poursuivre le réflexion de Poincaré, de partir de la classification de la surface orientable, faire une analyse statistique des complexes simpliciaux de dimension 3 et trouver que la conjecture de Poincaré est hautement probable. Ça, c'est un exercice possible. Je ne sais pas pourquoi, si le système ne connaît pas les règles de départ, arriverait à formuler la conjecture de Poincaré, mais pourquoi pas. Ensuite, si on l'autorisait à consulter l'histoire de la géométrie riemannienne et de la topologie algébrique, peut-être le système trouverait l'idée d'introduire la courbure de Ricci et la stratégie de Hamilton et Perlman pour démontrer la conjecture de Poincaré. Donc ça, c'est une récapitulation de l'histoire, uniquement à partir de Big Data. Mais après, quel serait l'intérêt du système pour le système de faire ça? Pourquoi? Où est-ce que le système trouverait une motivation de faire ça? C'est encore juste une question. Alors, question de philosophie. Dans le livre Artificial Unintelligence de Meredith Broussard, on peut lire: Humans are not now, nor have they ever been inconvenient. Humans are the point. Bon, ça c'est à la fin d'un livre de 100 pages. Et si elle dit, et si elle se sent obligée de l'affirmer à la fin de ce livre, c'est parce qu'elle a démontré dans les 200 pages précédentes que l'esprit des informaticiens ne voit pas du tout les choses comme ça, ne voit pas du tout les êtres humains comme l'objectif. En tant qu'être humain, je suis profondément convaincu par ce genre de propos, mais peut-être je ne suis pas objectif. Récemment, j'ai même terminé une espèce de critique littéraire d'un exposé particulièrement élégant et ingénieux de Benedict Gross en disant: l'essence de la pensée mathématique gît dans la création d'un monde où un tel exposé est possible. Là, c'était une citation de Patra. La création d'un monde où un tel exposé est possible. Mais ça, c'était tout un autre point de départ que la formalisation de preuves. En éthique, on a le droit de dire que l'humanité a de la valeur en soi, ou éventuellement n'en a pas. Mais en philosophie des mathématiques, ce discours n'est guère admissible. Donc, si on veut comprendre les limitations du discours sur l'inévitabilité de la mécanisation des mathématiques, il faut voir le thème comme relevant de l'éthique plutôt que de l'épistémologie dans le sens anglophone. C'est-à-dire, la valeur des mathématiques est à chercher dans la valeur de l'être humain plutôt que dans la vérification des énoncés. Et ce n'est pas impossible de parler comme ça. Il y a un livre qui est publié récemment, basé sur un discours prononcé par le président de la Mathematics Association of America. Ce n'est pas l'American Mathematical Society. Ça, c'est une association qui est qui parle surtout aux professeurs de mathématiques, aux professeurs de lycée, des étudiants en lycée, des étudiants à l'université aussi. Donc c'est pour un plus large public, en tout cas. Et il a dit The practice of mathematics cultivates virtues that help people flourish. These virtues serve you well no matter what profession you choose. And the movement towards virtue happens through basic human desires. Voilà une façon de parler dont je serais incapable parce que j'ai passé trop de temps à parler avec des philosophes, peut-être. Mais non seulement il a dit, mais il a été applaudi comme aucun autre discours de président de la Mathematical Association of America avant ou après. Il a transformé ça. Donc, il a transformé ça en livre. Donc, ça exprime quelque chose. Alors, mais je ne sais pas, malheureusement, c'est difficile d'utiliser ce langage. En tout cas, c'est un constat, c'est difficile d'utiliser ce genre de langage dans un texte en philosophie des mathématiques. Et c'est intéressant quand même de dire, je regarde ce que font mes collègues à l'université, en littérature, les disciplines littéraires et les humanités, les sciences humaines, ils n'ont aucune difficulté de s'exprimer comme ça. Je ne sais pas où dans notre formation on a perdu cette capacité. Heureusement, il y a moi qui a Francis Su qui parle comme un être humain et pas comme une machine. Je suis incapable d'écrire ce genre de texte, mais je suis convaincu que la philosophie de la pratique mathématique, si elle veut éviter des fausses pistes qui mènent plus ou moins directement à la vision d'un monde mathématique sans être humain, il faut trouver un moyen d'intégrer cette vision. Si on écrit un rapport pour un ministère, je ne me souviens plus, les universités en Grande-Bretagne sont toujours sur le ministère de commerce ou quelque chose comme ça. D'innovation. Si on écrit un texte pour un ministère, il ne faut surtout pas dire ça. Il faut parler de compétitivité, de retombées pour les industries. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, comme c'est quand même difficile, je vais parler non pas de mathématiques, mais de tennis pour terminer. C'est un texte que je vais me citer. Parce qu'on peut former. Facilité avec laquelle on peut former des phrases sur la mathématique sans le mot humain est déconcertante. Je termine en me citant à propos de tennis. Je ne joue pas de tennis, d'ailleurs. J'ai essayé des fois, mais le problème, c'est qu'il faut avoir envie de taper la balle. Et ça, je n'avais pas assez de motivation pour faire un effort dans cette direction. Alors, bientôt, Novak Djokovic dépassera les records qui ont fait de Roger Federer et de Rafael Nadal deux des joueurs de tennis les plus populaires ainsi que les plus respectés de tous les temps. Pourtant, les amateurs de tennis se posent de plus en plus la question si Djokovic est un robot. En grande partie parce qu'il n'arrête pas de répéter aux journalistes que je ne suis pas un robot. Peut-être il est un robot, peut-être pas. Il semble admis qu'il manque certaines des qualités humaines qui font que ces deux grands rivaux sont tellement aimés. Et encore, quand on regarde la presse autour de ces gens, inévitablement, ils disent qu'ils sont aimés, pas seulement qu'ils sont respectés. Je souligne le mot parce qu'il revient toujours dans les articles sur ces deux-là. C'est clair pourtant que le niveau de supériorité promis par l'intelligence artificielle aux professionnels humains, y compris aux mathématiciens, est d'un ordre tout à fait différent à la supériorité à laquelle Djokovic peut prétendre par rapport à Federer et Nadal. La version pour le tennis de la démonstration entièrement automatique serait celle-ci, j'essaie d'imaginer quoi ça serait. Des services 100% sans faille. La cour se fond à un flou 3D hypersonique. Le match terminé après quelques millisecondes, les scores annoncés instantanément. Ainsi, le résultat est connu, mais personne dans les tribunes a la moindre idée de ce qui s'est passé, tous les matchs indiscernables les uns des autres. Je pense que c'est la fin.